Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Cette semaine a eu lieu à Davos le grand rendez-vous mondial, un des grands rendez-vous mondiaux de l'univers de la finance, de l'industrie, de l'économie. Coïncidence, les marchés boursiers mondiaux volent de record en record et en même temps, un objet monétaire pas très bien identifié bat lui aussi de record, le Bitcoin, une monnaie virtuelle hautement spéculative. C'est donc l'euphorie. Alors les mesures prises après la crise de 2008 ont-elles généré un monde sans crise, sans bulle financière, sans excès, où les banques financeraient l'économie, où les investisseurs privés seraient devenus vertueux et où les fonds spéculatifs auraient disparu? Sommes-nous dans un monde idéal? Telles sont les questions dont nous allons débattre avec les deux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Véronique Riche-Laurès.
Bonjour Jean-Pierre.
Véronique Riche-Laurès, vous êtes économiste indépendante et vous publiez à destination de vos abonnés une lettre qui porte votre nom et qui fait autorité. Avec nous dans ce studio, Christophe Nijdam, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Christophe Nijdam, vous êtes un spécialiste des questions bancaires, spécialisation que vous avez acquise au fil des années en étant d'abord vous-même banquier en France, aux États-Unis, et puis vous avez été le secrétaire général de Finance Watch, une ONG de surveillance du monde financier et bancaire. Vous êtes aussi membre du collège de l'autorité bancaire européenne et vous publiez aux éditions de la Documentation française la deuxième édition d'un livre tout à fait dans la cible de cette émission qui s'appelle Parlons Banque en 30 questions, livre coécrit avec Jésabelle Coupet-Soubéran. Et puis vous venez de publier aux éditions Les Liens qui Libèrent un ouvrage intitulé Calculatrix, une somme d'astuces et de stratégie pour réapprendre à effectuer des calculs parfois complexes. Des mathématiques, on en aura peut-être besoin pour parler du Bitcoin. Après un reportage d'Ariane Gaffuri, nous rejoindrons aussi Elia Berger à la Pessac dans le sud-ouest de la France, où se trouve une usine de la monnaie de Paris qui a quelques difficultés. Et nous irons rejoindre l'envoyé spécial de RFI à Davos, Mounia Daoud. Le sommet de Davos a réuni cette semaine quelques 3000 personnalités, parmi lesquelles 70 chefs d'État et de gouvernement, les patrons des 1000 plus grosses entreprises mondiales, des centaines d'artistes. À l'ordre du jour de cette réunion, il y avait la croissance mondiale, la lutte contre le terrorisme et le changement climatique. On a entendu la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, très optimiste sur les perspectives de la croissance mondiale. Est-ce que l'état de la finance mondiale est aussi rassurant que celui de la pure sphère économique, Véronique Riche-Laurès?
Effectivement, je pense que d'ailleurs c'est un des sujets de préoccupation qui filtre y compris dans les discussions de Davos, hein. C'est que si l'économie mondiale finit enfin par donner des signes un peu rassurants, cette amélioration repose à un tel point sur l'état des marchés financiers et des valorisations, c'est-à-dire des valeurs des actifs financiers tellement élevées que le sentiment d'insécurité est finalement considérable. Donc on a des banques centrales, effectivement, essentiellement des banques centrales, hein, qui ont tenu l'économie mondiale à bout de bras en injectant des liquidités de manière absolument historique, massive, hein, jusqu'à aujourd'hui. L'année dernière, 2017, ce sont 2500 milliards de dollars qui ont été injectés dans l'économie mondiale. C'est considérable. Tout ceci alimente effectivement des hausses des marchés financiers, des actifs, pas seulement financiers d'ailleurs, des actifs immobiliers aussi, fait naître des phénomènes tels que le Bitcoin, qui est quand même très lié à cette abondance de liquidités. Ça permet effectivement de se financer à bon compte. On commence à voir un petit peu plus d'investissement. Mais la menace effectivement qui pèse sur cette amélioration de la conjoncture économique mondiale, c'est bien cet excès de valorisation. Parce qu'il est évident qu'aujourd'hui, les investisseurs payent à des niveaux que l'économie ne pourra jamais satisfaire, des attentes de profits futurs, qui constitue donc une menace.
Je vous pose la même question, Christophe Nijdam, qu'à Véronique Riche-Laurès. Ça va si bien que ça? Alors, sur la planète finance?
Ça va si bien que ça? Non, en tout cas, c'est l'euphorie. On peut peut-être se poser la question, est-ce que ça n'est pas le calme avant la tempête. Je citerai Jean-Claude Trichet qui, hier, sur Boursorama, a dit « Il faudra bien qu'il y ait une correction importante sur les marchés ». En termes de valorisation, où est-ce qu'on se trouve actuellement? J'ai pris comme référence l'année 2006, qui était justement avant la crise ayant démarré en août 2007 avec les subprimes. Le multiple de capitalisation des bénéfices, qu'on appelle le price earning ratio, qui est une mesure la plus usuelle, disons, de la cherté d'un marché. En 2006, le price earning ratio d'à peu près 450 valeurs européennes cotées se trimballait aux alentours de 8 fois. Aujourd'hui, le marché se traite sur 16 fois les bénéfices de l'année 2018. Donc, il est cher.
2018,
tout à fait. Donc, ce qu'on attend pour cette année. Donc, le marché est cher. Certes, entre 2006 et aujourd'hui, les taux ont baissé. Quand les taux baissent, les taux d'intérêt. Quand les taux baissent, les valeurs montent. Il n'en demeure pas moins que si l'on regarde devant, sans avoir de boule de cristal, les taux vont remonter. Et on va avoir le phénomène inverse. Quand les taux vont remonter, les valeurs, notamment boursières, vont rebaisser. Alors, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui en termes de valorisation? Quand on regarde, disons, les cours de bourse par rapport au plus haut sur les 6 dernières années ou par rapport au plus bas sur les 6 dernières années, on se trouve à 8% en dessous du plus haut aujourd'hui et on se trouve 157% au-dessus du plus bas. Donc les marchés, disons, se sont bien emballés. C'est désormais qu'il faut être prudent.
Donc c'est inquiétant ?
C'est inquiétant. Maintenant, comme toujours, personne n'a de boule de cristal et personne ne peut dire que les marchés vont corriger demain. Mais disons qu'il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent pour dire attention.
Alors, ces marchés euphoriques, il en a été question à Davos, où vous vous trouvez, Mounia Daoudi, vous êtes l'envoyée spéciale de RFI, bonjour.
Bonjour.
Mounia, est-ce que cette euphorie boursière est bien accueillie à Davos?
J'ai envie de vous dire que le monde de la finance est un peu arrivé assez triomphant ici à Davos. Vous l'avez dit, les marchés volent de record en record. Et la réforme fiscale de Donald Trump, dont il est beaucoup question ici, et qui signe le rapatriement des capitaux américains stockés à l'étranger, va sans doute doper l'économie américaine et mondiale. Ce matin encore, à Davos, le patron de la Banque de France, Villeroy de Gallo, a réaffirmé que la zone euro avait encore besoin d'une politique monétaire accommodante. J'ai envie de vous dire que demander de plus. Mais il faut savoir que si certains, à l'image par exemple de Steve Schwarzman, le fondateur de la banque d'investissement Blackstone, prédisent un horizon limpide, il affirme ne pas s'inquiéter d'un retournement des marchés, d'autres sont quand même beaucoup plus prudents. C'est le cas par exemple de David Rubenstein, l'un des fondateurs de Carlyle, la société de capital investissement, qui lui s'est exprimé lors d'un débat organisé par Bloomberg, et lui s'inquiète de ce climat d'insouciance qui domine notamment à Wall Street. C'est justement quand tout le monde est content et que tout va bien, que ça tourne mal. C'est ce qu'il a déclaré en début de semaine. Et plusieurs autres grands banquiers de Wall Street prédisent même qu'une crise encore plus violente que celle qui a eu lieu il y a 10 ans pourrait avoir lieu, vu les phénomènes de bulles qui apparaissent un petit peu ici et là. Je voulais juste vous préciser que ce point de vue est partagé par le Fonds monétaire international. Vous citiez tout à l'heure Christine Lagarde, qui s'inquiète notamment, par exemple, de la réforme fiscale aux États-Unis, qui va certes avoir un effet à court terme, mais à moyen terme, ça devrait creuser encore plus le déficit budgétaire américain et la croissance qui, pour le moment, va bien aux États-Unis pourrait ralentir beaucoup plus vite que prévu. Et puis, le FMI s'inquiète également d'un risque accru de correction sur les marchés.
Mounia Daoudi à Davos, merci. Véronique Richflores, quels oracles faut-il croire? Ceux qui pensent que tout va continuer à aller bien ou ceux qui prédisent une explosion des bulles dont vous parliez tout à l'heure?
Écoutez, je dirais que le premier constat, effectivement, c'est est-ce qu'on parle véritablement de bulle ou pas. Je pense qu'effectivement, on a évoqué des valorisations qui font frémir. On est au niveau mondial à un niveau de capitalisation, c'est-à-dire on fait la somme des valeurs boursières et de la valeur des marchés boursiers mondiaux. On est au-dessus de 100% du PIB depuis l'été dernier.
Du produit intérieur.
Un plus haut niveau depuis 2007. Donc, effectivement, ce sont des niveaux qui, en général, ne sont pas tenus.
Ce que vous voulez dire, c'est que la capitalisation boursière mondiale est supérieure à toutes les richesses produites
Tout à fait. Elle est supérieure aujourd'hui à la création de valeur mondiale annuelle depuis l'été dernier. Sans doute, d'après mes estimations, qu'on le dépasse à peu près de 5-6% aujourd'hui. Donc, c'est considérable.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a une décorrélation entre l'économie réelle et l'économie financière et la planète finance ?
Il y a une décorrélation, effectivement, entre la croissance de l'économie réelle, selon que l'on constate, et ce que chiffre, ce qu'estime la finance, de la valeur finalement, de cette économie réelle. Et donc, effectivement, la question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que nous, économistes, sous-estimons ? Est-ce que, notamment, les nouvelles technologies, cette révolution du digital peut apporter des bénéfices tels que les marchés ne se trompent pas en valorisant les actifs, les actions telles qu'ils les valorisent aujourd'hui ? Mais vous savez, on a beaucoup d'éléments, on a également quand même une histoire qui nous a un petit peu rodé à ce type de phénomène. Dans chaque période de bulle, les financiers, en général, nous racontent la même chose. C'est normal, le monde est différent. Il y a d'ailleurs eu un très beau livre sur ce sujet qui s'intitulait « This time is different ». Et pour rappeler à quel point, quand on est dans ces phénomènes de survalorisation des marchés financiers, on veut voir forcément les éléments qui peuvent justifier cette erreur d'appréciation collective. La difficulté, c'est que plus les marchés montent, plus on a également des effets économiques positifs, ce qu'on appelle des effets richesse. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on ne sait plus pourquoi la croissance s'améliore. Est-ce qu'il y a véritablement des sous-jacents meilleurs économiquement, plus d'emplois, meilleure répartition, etc., plus de pouvoir d'achat, plus d'investissement, ou est-ce qu'il s'agit d'effets richesses qui se diffusent et qui floutent un petit peu l'appréciation des économistes ? C'est en général le piège dans lequel les économistes tombent toujours, les banquiers centraux également, c'est pour ça qu'on peut redouter des hausses de taux d'intérêt, effectivement, et dès lors que les taux d'intérêt se normalisent, si jamais ils le font, je suis plus dubitative sur cette histoire, mais peu importe, s'ils se normalisent, effectivement, ça viendra percer cette bulle.
Christophe Nijdam, je croyais qu'on avait mis des pare-feux, qu'on avait pris des précautions après la crise de 2007 pour qu'une crise majeure ne se reproduise pas. Où est-ce qu'on en est de ces précautions ?
En matière de régulation financière, nous avons eu à peu près une quarantaine de directives, c'est ce qu'on appelle du niveau 1, suivi derrière de 400 textes dits de niveau 2, qui sont des standards techniques. On donne l'impression que ça fait beaucoup. Mais en fait, la plupart de ces régulations sont des régulations dites micro-prudentielles et très peu sont macro-prudentielles. Alors la différence entre le micro et le macro, c'est le macro qui finalement fait que nous avons des banques dites systémiques. Il y en a 30 au niveau mondial. La liste n'a pas changé. C'est établi chaque année par le Conseil de stabilité financière qui sont tout sauf des crypto-marxistes. Alors, un des vecteurs, disons, de la cherté des marchés boursiers, ça a été la baisse des taux. Nous sommes dans une configuration de taux qui est historiquement nouvelle. Nous n'avions jamais connu des taux aussi bas. Il faut savoir que ces taux sont bas, et on le sait, puisque les États ne pouvaient plus se porter fort pour leur système bancaire. Ce sont les banques centrales, comme par exemple la BCE, qui au travers...
La Banque Centrale Européenne.
La Banque Centrale Européenne.
Ou la Fed, la Réserve Fédérale Américaine.
Ou la Fed, ou la Banque du Japon, ou la Banque d'Angleterre, mais qui se sont, disons, portées fort en deuxième digue contre les raz-de-marée, disons, des crises financières, qui ont donc inondé les marchés de liquidités pour éviter l'effondrement du système que personne ne souhaite. Alors, quelques chiffres sur la BCE. En 2006, le bilan de la Banque Centrale Européenne était de 1200 milliards d'euros.
Qu'est-ce que vous appelez le bilan pour nos auditeurs ?
Le bilan de la Banque Centrale Européenne, c'est comme un bilan bancaire. Vous avez des actifs, des passifs. Au passif, vous avez les réserves qui sont déposées par les banques, disons, privées. Et à l'actif, vous avez, notamment dans le cadre de ce qu'on a appelé le quantitative easing, le LTRO, etc., des obligations qui ont été achetées par la Banque Centrale Européenne auprès des banques privées pour leur fournir de la liquidité et éviter donc une crise bancaire systémique. Ce bilan était de 1200 milliards en 2006. À fin 2016, il était passé à 3600 milliards. Et j'ai regardé la semaine dernière, puisque c'est une information que l'on trouve sur le site de la BCE chaque semaine, il était à 4484 milliards d'euros, ce qui fait 41% du PIB de la zone euro. Donc il faut bien être conscient que sans le soutien de la Banque Centrale Européenne, nous aurions de sacrés problèmes. L'inconvénient de ce soutien, c'est que les taux sont historiquement bas, donc on a peut-être là justement semé le germe de la prochaine crise. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça ? Il faut se rappeler que en finance, quand les taux sont proches de zéro, nous avons un risque de taux de volatilité énorme. Je vais vous prendre deux chiffres. Avant la crise, en gros, les taux d'intérêt...
Avant la crise de 2008.
Avant la crise de 2008, bien sûr, les taux d'intérêt étaient aux alentours de 5%, ce qu'on appelle l'emprunt d'État comme l'OAT, qui représente le taux sans risque de solvabilité, en tout cas. Quand vous prenez une obligation d'une durée de 30 ans et que vous faites passer le taux d'intérêt de 5 à 6%, c'est-à-dire quand les taux remontent de 1%, la perte en capital sur cet instrument est de 14%. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement taux où on est à 0%, et en admettant qu'on applique une même hausse de 1%, à ce moment-là, les pertes en capital, c'est mécanique. C'est pas 14%, c'est 26%. C'est ce qui fait que dans la situation actuelle, si vous voulez, une hausse des taux qui arrivera quand, je ne sais pas, mais disons beaucoup plus dangereuse que par le passé, parce qu'on démarre avec un plancher extrêmement faible.
Donc c'est une bombe de temps.
Alors, c'est une bombe de temps. Cette bombe de temps, néanmoins, si les taux remontent graduellement et pas trop brutalement, ça peut passer.
Verdi Krish Flores, les financiers américains avaient mis au point des produits vérolés, des bombes à retardement qui avaient explosé. Est-ce qu'il y en a encore de ce genre de produits qui ont miné de manière souterraine la situation financière d'abord des banques américaines et puis par extension de nombreuses banques européennes et mondiales?
Oui, et bien comme toujours, d'ailleurs on peut reparler des subprimes, puisque le principe du subprime qui s'adresse à une clientèle dont la solvabilité est plus basse que la moyenne, relativement faible, donc une clientèle à risque, hein, c'est subprime qui s'était largement répandu dans le secteur immobilier avant la crise et qui avait été le déclencheur de la crise de 2008, et existent toujours, et ils se sont notamment développés assez considérablement dans le secteur de l'automobile, c'est-à-dire qu'on peut acheter effectivement aux États-Unis une voiture à crédit avec un crédit subprime, donc une bombe encore une fois à retardement. Mais je dirais que les bombes, c'est peut-être pas de ce côté-là qu'on va être le plus inquiet, c'est qu'effectivement ce qui vient d'être expliqué nous révèle qu'on a déversé des sommes considérables dans l'économie sans donner de point de chute à ces liquidités. Hein, on n'avait pas des gouvernements, c'était l'un des reproches des économistes, hein, c'est qu'on a fonctionné uniquement grâce à l'action des banques centrales. Le politique a été complètement absent. Si le politique avait su prendre les mesures ou les recommandations, les orientations dignes d'un politique pour permettre de développer des projets d'investissement pour le futur, sur l'environnement, sur l'énergie, sur ce qu'on ne sait quoi, qui viennent occuper ces liquidités, les orienter dans la sphère réelle de l'économie pour préparer la croissance future, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a laissé ces liquidités, finalement, on va dire de manière oisive, se déverser sur les marchés. Comme les taux d'intérêt étaient bas pour un épargnant, quel qu'il soit, on a beaucoup de plus en plus de retraités ou de la moyenne d'âge monte, l'épargne augmente, elle va se placer sur des produits plutôt sécurisés. Le sécurisé signifie aujourd'hui pour l'épargnant moyen européen des pertes en capital parce que les taux sont négatifs. Donc forcément, on va aller chercher autre chose et on va prendre du risque qui effectivement, soit parce qu'à un moment donné, quand tout est trop cher, il y a une crispation, une fragilité, une nervosité des marchés qui fait qu'il y a une hypersensibilité qui peut conduire à beaucoup d'instabilité, voire au pire. Soit parce que les banquiers centraux ne peuvent plus continuer à regarder la situation dérivée comme elle dérive. Donc à un moment donné, eux-mêmes, bien que conscients du risque qu'ils prennent, pourraient agir de la mauvaise manière pour essayer de calmer les choses.
Eh bien, nous allons continuer cette galerie des horreurs et des frayeurs dans la deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, dans quelques minutes sur RFI, après un flash d'actualité.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, alors que les marchés boursiers volent de record en record, que l'économie mondiale semble promise à une belle croissance dans les mois à venir, nous nous interrogeons sur l'état de la finance mondiale. Il y a 10 ans, nous étions en pleine crise financière, l'économie réelle subissait de plein fouet l'impact de cette crise. Or aujourd'hui, on n'entend plus parler de cette finance qui nous inquiétait tant hier. Alors tout va-t-il pour le mieux dans le meilleur des mondes? A-t-on définitivement réglé les problèmes qui avaient failli faire dérailler l'économie planétaire? Telles sont les questions que nous évoquons dans cette émission et auxquelles nous avons commencé à répondre dans la première partie de cette émission avec deux invités, Véronique Riche-Flores, analyste économiste indépendante, et avec Christophe Nijdam, ancien banquier, ancien secrétaire général de Finance Watch, co-auteur avec Jezabel Coupet-Souberan du livre « La banque en 30 questions » aux éditions de la Documentation française. Continuons donc à explorer cette face plus ou moins secrète de l'économie mondiale avec cette question. Partout dans le monde, les inégalités se développent. Comme l'ONG Oxfam l'a redit il y a quelques jours, une poignée de milliardaires contrôle une proportion chaque jour croissante des richesses mondiales. Est-ce que cette situation, Véronique Riche-Flores, Christophe Nijdam, contribue à créer une bulle spéculative mondiale?
Le fait qu'il y ait un petit nombre de personnes qui soient particulièrement riches, je ne suis pas sûr que cela contribue à créer une bulle mondiale en matière de valeur des actifs. En revanche, ça pose d'autres problèmes, disons, au niveau macroéconomique, parce qu'on s'est effectivement rendu compte que ce qu'on appelait le trickling effect, qui était le fait que...
Le ruissellement de la richesse.
Le ruissellement de la richesse, finalement, ça ne fonctionne pas. Hein. Combien de Mercedes pouvez-vous croquer tous les jours au petit déjeuner? Et que ça pose un autre problème, justement, au niveau de l'économie, c'est-à-dire la croissance. Il ne faut jamais oublier que le PIB, le produit intérieur brut, c'est 60% de consommation. Donc, c'est, si vous voulez créer de la croissance, il ne faut jamais oublier la consommation, et donc le pouvoir d'achat, et donc, pour des gens plus modestes, un peu plus de possibilités.
Véronique Riche-Flores, je vais vous reposer la même question, mais un peu à l'envers. Est-ce que le fait qu'il y ait des milliardaires qui s'enrichissent de plus en plus semble-t-il au détriment de la grande masse de la population, ou alors que la grande masse de la population ne profite pas autant de ces liquidités, est-ce que c'est un effet de cette abondance financière, de ces bulles que vous décriviez tout à l'heure?
Je pense qu'incontestablement, l'abondance financière et le niveau très élevé des valorisations de marché ou des marchés, pour simplifier, est un facteur d'aggravation des inégalités. À tel point que finalement, et plus ce système-là ou plus c'est les marchés financiers, la place de la finance dans l'économie prend de l'importance et plus elle devient une menace, finalement on voit qu'elle va concentrer tous les efforts ou de plus en plus d'efforts des responsables de politiques économiques et qu'en réalité on arrive à un point où la finance va faire tout. C'est la finance qui, ou la crainte de mouvements financiers qui va contraindre les banquiers centraux à ne plus faire leur travail qui consisterait par exemple à remonter le niveau des taux d'intérêt à des niveaux un peu plus normaux par rapport à la croissance. C'est la peur de mouvements trop brusques, de la fuite de capitaux qui va obliger ou inciter les gouvernements à mener telle ou telle politique fiscale à l'égard des hauts revenus, à l'égard des bénéfices des entreprises, typiquement la réforme de Donald Trump, et on voit bien également les tentations européennes. Et donc c'est in fine également la crainte de la sanction financière qui va jouer sur les politiques publiques et avoir des retentissements bien évidemment sur l'organisation de nos sociétés qui finalement contribuent toutes de concert à aggraver, à creuser en tout cas le fossé entre les plus riches qui sont pas forcément plus riches depuis très longtemps, entre les détenteurs de capitaux, on va dire, et d'épargne qui profitent de cet environnement financier et les autres. Et ce fossé est en train, effectivement, d'avoir, de toucher des niveaux ou d'atteindre des niveaux tels qu'il a des résonances sur le plan du fonctionnement de nos économies, qu'on perçoit aujourd'hui, y compris sur le plan de la conjoncture
et des déroulements de la conjoncture économique au jour le jour. Donc, il y a là, effectivement, des changements en profondeur de nos économies, la manière dont elles fonctionnent, qui, bien évidemment, auront des répercussions probablement structurelles et durables sur cet ensemble.
Christophe Nijdam, Véronique Rich-Flores évoquait à l'instant, et puis Mounia Daoudi, plus tôt dans la première partie de l'émission, évoquait aussi la réforme fiscale que Donald Trump vient de faire voter par le Congrès américain, en caricaturant à peine moins d'impôts pour les plus fortunés et pour les entreprises, bien que ce soit parfois un peu contesté, cette interprétation de la réforme fiscale. Est-ce que c'est un risque d'accroissement de la sphère financière, du passage de masse d'argent, de l'économie réelle, du budget de l'État, vers la finance ?
Alors, le risque existe, parce qu'effectivement, si vous voulez, quand vous avez déjà un certain patrimoine, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous n'allez pas croquer plus de Mercedes au petit déjeuner. Donc, vous avez une épargne encore plus importante, et cette épargne encore plus importante, évidemment, va être recyclée, entre guillemets, sur les marchés financiers.
Alors, l'un des éléments clés de cette finance mondiale, ce sont les banques centrales, vous l'avez tous les deux démontré amplement depuis le début de cette émission, qui ont pour tâche de réguler, in fine, les marchés. Or, de plus en plus de marchés échappent à cette régulation. Par exemple, sur le marché monétaire, l'apparition des crypto-monnaies. Écoutez ce reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, au cœur de la planète Bitcoin, signé Ariane Gaffiori.
Monsieur, bonjour.
Bonjour. Oh, c'était Bitcoin.
D'accord. Combien vous souhaitez mettre ?
620.
Les spéculateurs défilent à la maison du Bitcoin, une plateforme d'échange à Paris. Ils échangent des euros contre des Bitcoins dans l'espoir de faire des plus-values.
C'est une monnaie qui est intéressante, ça monte. Il y a plus d'intérêt à acheter du Bitcoin à l'heure actuelle que de mettre son argent en banque. Hein.
Là, vous allez investir combien ?
400, 600.
Et qu'est-ce que vous allez faire avec 400 ? Vous allez attendre ?
Maintenant que ça monte, puis après, on va peut-être acheter d'autres petites crypto-monnaies à côté.
Mais le Bitcoin, qu'est-ce que c'est ? Nicolas Louvet, président de la maison du Bitcoin.
Une monnaie décentralisée, rapide, limitée en quantité. Il y en a 21 millions maximum. Authentifiable, les informations sur les transactions sont enregistrées dans une blockchain qui fait que toutes les transactions sont traçables depuis la création de la première transaction en 2009.
Quand vous venez ici, il faut toujours prendre une pièce d'identité ou un passeport.
Un Bitcoin vaut plus de 10 000 dollars aujourd'hui quand il valait seulement 1 dollar il y a 6 ans. Une folle envolée liée à l'offre et à la demande et à sa rareté. Mais prudence, Christophe Dembick, économiste chez Saxo Bank.
Comme dans toute bulle spéculative, à un certain stade, tout le monde a commencé à parler de cette forte appréciation et vous avez des investisseurs qui ne s'y connaissent pas, parfois qui n'ont jamais investi sur un seul produit financier, qui font augmenter le prix. Aujourd'hui, on est typiquement dans une bulle spéculative. À un certain stade, ça va bien finir par éclater. Ceux qui seront acheteurs à ce moment-là ne pourront certainement pas récupérer leurs gains. C'est le risque.
Les bitcoins et autres crypto-monnaies comme l'Ethereum ou le Ripple sont cryptés par des dizaines de milliers d'ordinateurs dans le monde. Nous sommes à Nantes devant les serveurs d'un mineur, comme on dit dans le milieu, sans casque ni piolet. Sébastien Gouspillou.
C'est un serveur qui est là pour résoudre un calcul très complexe, un peu comme un sudoku. Quand je vous envoie 10 euros, 100 euros, 1000 euros en bitcoin, cette transaction doit être validée par ces machines-là, inscrites dans la blockchain. Les machines sont des mineurs, et nous, on est juste le gestionnaire des machines. Un mineur, son rôle, c'est de valider les transactions, pas de créer du Bitcoin. Mais comme il valide des transactions, il est récompensé par du Bitcoin. C'est-à-dire que le protocole Bitcoin lui donne tous les nouveaux Bitcoins qui sortent, c'est-à-dire 12,5 toutes les 10 minutes, sont distribués aux ordinateurs qui valident les transactions. C'est leur récompense.
Vous avez investi combien dans tout ça ?
Énormément.
Le Bitcoin inquiète les banques centrales qui n'ont aucune prise sur son évolution et les autorités en France veulent le réguler. Mais la technologie de la blockchain ne laisse personne indifférent. Claire Balva, PDG de Blockchain Partners.
Il y a différents types de blockchain en fait aujourd'hui qui font fonctionner à la fois des crypto-monnaies mais qui peuvent aussi être utilisées pour d'autres types d'applications comme la certification de données numériques ou la traçabilité par exemple.
Mi-décembre, le Bitcoin a fait son entrée à la bourse de Chicago. Des États l'autorisent, d'autres l'interdisent. Les crypto-monnaies, 1500 au total, en tout cas une petite révolution dans le monde de la finance.
Un reportage signé Ariane Gaffuri, Véronique Rich-Flores, le Bitcoin, c'est quelque chose que vous comprenez, qui vous inquiète, qui n'a pas d'importance, c'est une monnaie de plus.
C'est un phénomène qu'on comprend dans un contexte où il faut se remettre dans la perspective, crise financière de 2008, montée extrême de la défiance à l'égard du système bancaire,
des banques. Montée parallèle au fil des années de la défiance à l'égard du risque politique ou des États. Et donc, on cherche effectivement autre chose. On cherche à se protéger. Par ailleurs, vous avez donc cette politique monétaire avec ces injections de liquidités qui permettent effectivement l'apparition de phénomènes spéculatifs qui sont propices à la création, hein, à l'innovation. Donc, tout ceci, on le comprend. La violente envolée et la montée en puissance de l'intérêt pour ce type de produit au fur et à mesure de sa valorisation en forte hausse est effectivement préoccupante, bien que malgré tout, le phénomène Bitcoin reste relativement limité. On parle de quoi ? Alors, ça va très vite en fonction de l'évolution. On est peut-être à 300 milliards de dollars aujourd'hui. C'est vraiment pas grand-chose. Donc à ce niveau-là...
300 milliards, c'est pas grand-chose.
Non, c'est vraiment pas grand chose. 300 milliards, attention, parce qu'effectivement, en fonction de l'évolution, vous avez vu comme la volatilité est quand même très importante. Donc, c'est à vérifier. Mais pour l'instant, je dirais que c'est pas énorme, même si c'est un phénomène qui s'est développé extrêmement rapidement, qui pourrait continuer à se développer dans des proportions qui deviendraient très, potentiellement très à risque. Mais c'est pas le cas. En revanche, également, à côté du Bitcoin, se sont développées des crypto-monnaies qu'on connaît beaucoup moins.
1500, disait Ariane Gaffiori. 1500.
Et là, on voit bien, on constate bien qu'il y a une multiplication de produits qui sont d'ailleurs pour certains, enfin pour la plupart, très spécifiques, mais dont les utilisateurs ou les acheteurs ne connaissent pas les spécificités. Donc il y a tout un espèce de une espèce de caisse noire là qui est quand même très préoccupante quant à ses retombées possibles si elle venait à continuer à prendre de l'ampleur.
Préoccupante ces crypto-monnaies, Christophe Nijudam?
Alors, préoccupante, oui, mais je suis d'accord avec Véronique, les montants dont on parle par rapport à la taille des marchés financiers restent des montants modestes. Donc 300 milliards de dollars, plus ou moins, pour le Bitcoin, avec les autres monnaies dites alternatives, les altcoins, on tourne aux alentours de 500 milliards par rapport à des marchés financiers, donc des capitalisations boursières, que ce soit les bourses d'actions ou que ce soit les marchés obligataires, aux alentours de 150 000 milliards. Donc 500 milliards par rapport à 150 000 milliards, pour voir ça en relatif. Bon, cela dit, le Bitcoin, je vais être un peu grossier, mais je vais me permettre d'être grossier puisque c'est le sénateur Gérard Longuet lui-même qui disait ça lors de l'audition du gouverneur de la Banque de France. Lors de l'audition du gouverneur de la Banque de France la semaine dernière, Gérard Longuet disait le Bitcoin, c'est un piège à cons. Bon, donc ça, faut le savoir. Villeroy de Gallo, lui...
Le gouverneur de la Banque de France.
Le gouverneur de la Banque de France parle, lui, de crypto-actifs et non pas de crypto-monnaie, parce que depuis Aristote, une monnaie doit avoir trois caractéristiques. La première, ça doit être un moyen de paiement. Bon, le bitcoin, c'est peut-être un moyen de paiement, mais le problème, c'est quand vous voulez liquider le bitcoin, disons en dollars ou en euros, la volatilité est très forte. La deuxième caractéristique, c'est une unité de compte. Et la troisième, c'est une réserve de valeur. Ben, compte tenu de la volatilité du bitcoin, on ne peut pas parler de réserve de valeur, donc... Là, les caractéristiques d'une monnaie n'existent pas, on peut plutôt parler de crypto-actifs. Alors, le Bitcoin et toutes ces monnaies alternatives, pour bien les comprendre, il faut quand même réaliser qu'il s'agit d'un décalage générationnel très fort. Vous avez d'un côté, disons, ce qu'on appelle les millennials, c'est-à-dire nos plus jeunes, qui sont les plus, disons, ardents défenseurs et investisseurs de petites sommes sur le Bitcoin, face aux baby-boomers, dont je fais, disons, partie. Et les millennials qui se sont, disons, engoués pour ces monnaies alternatives, finalement considèrent qu'une partie, disons, de la crise dans laquelle on est toujours enlisé, c'est à cause des baby-boomers. Donc il y a ce côté générationnel.
Les trentenaires face aux soixantenaires.
Voilà, il y a ce côté générationnel qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est presque un petit peu politique, qui est de dire, vous n'avez pas su faire, nous on va tenter autre chose. Il y a un côté un petit peu révolutionnaire, presque anarchiste, puisqu'on n'a pas besoin d'État pour ces crypto-monnaies. Donc il y a cet aspect-là qu'il ne faut pas sous-estimer, disons, dans le développement de ces monnaies. Et n'oublions pas que si on regarde sur l'histoire longue, on avait démarré avec les rois qui avaient créé des monnaies métalliques. Puis, comme ils ont commencé à tricher avec le rognage, on est passé à ce moment-là avec la loi dite de Gresham, c'est-à-dire que les mauvaises monnaies, remplacent les bonnes. Plus tard, comme il fallait plus de monnaie pour accommoder la croissance et qu'on n'avait pas suffisamment de métaux pour fabriquer ces monnaies, on est passé à la monnaie papier, ce qui a donné lieu déjà, à certaines spéculations et faillites retentissantes comme la faillite du système de l'eau en 1720. Et il aura fallu attendre 80 ans, c'est-à-dire en 1800, pour avoir la création de la Banque de France qui, elle, à ce moment-là, a stabilisé. Aujourd'hui, on a le Bitcoin. Qu'est-ce que l'on aura dans 10, 15, 20 ans? Je ne sais pas, ou 30 ans. En tout cas, il n'est pas impossible, si on fait un peu de prospective, de se dire que entre les fintech et la blockchain, peut-être qu'à terme, nous n'aurons plus besoin de banque. Il faut surtout pas, avec cette spéculation Bitcoin, jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce qui est important là-dedans, c'est la blockchain. La blockchain va rester et il ne faudrait pas la tuer, prématurément.
C'était Codici et Code d'ailleurs sur RFI. Nous sommes avec Christophe Nijdam et Véronique Riche-Flores pour parler de la finance mondiale. Christophe Nijdam, vous nous avez fait rapidement une petite histoire de la monnaie, des espèces sonnantes et trébuchantes. Un aspect peut-être anecdotique des impacts de la nouvelle finance mondiale, c'est la frappe de la monnaie. Dans le sud-ouest de la France, à Pessac, à une dizaine de kilomètres de Bordeaux, l'usine de la monnaie de Paris produit 6 000 000 de pièces tous les jours, des euros mais aussi de la monnaie étrangère. Son activité jusqu'ici florissante connaît pourtant un déclin depuis quelques années à cause de l'essor des moyens de paiement dématérialisés. C'est un reportage Ecodici et Codayeur signé Elia Berger.
Carte bancaire sans contact, paiement par téléphone portable, aujourd'hui plus besoin de pièces pour payer ses courses. Des évolutions qui inquiètent Jackie Friel, le directeur de l'usine de Pessac.
Ces paiements dématérialisés, c'est une menace pour l'entreprise. Nous, aujourd'hui, on fabrique de la pièce uniquement. L'utilisation des pièces s'amoindrit. La tendance est plutôt à la baisse, même au niveau du programme de l'État.
108 millions de paiements par carte bancaire sans contact ont été réalisés en juillet 2017. C'est deux fois plus que l'année dernière, selon la Fédération bancaire française. De quoi inquiéter les 180 salariés de l'usine. À l'atelier de monnayage, Bertrand et ses collègues frappent 750 millions de pièces d'euros chaque année. Et les questions sur ces nouvelles technologies, eh bien, ça ne l'enchante pas vraiment.
C'est une question, monsieur, qui me dérange, dans la mesure où j'espère qu'il y aura le plus longtemps possible de la monnaie encore. C'est quand même une part d'indépendance. Et moi, je trouve que c'est toujours très valorisant de faire sa propre monnaie.
Une part d'indépendance, mais pas seulement. Christelle Bardy est conductrice de ligne à l'usine de Pessac.
Ça fait quand même partie du devoir régalien du gouvernement. On se sent pas important nous-mêmes, mais ce qu'on fait est important. Oui.
Dans un pays comme la Suède, le règlement en espèces ne représentait l'année dernière qu'1,4% des paiements. Et quand on demande à Christelle Bardy si ces nouvelles technologies l'inquiètent, elle répond.
Oui, parce que les nouvelles générations sont très penchées sur ces systèmes de paiement, sur tout ce qui est informatique, tout ça. C'est nos emplois qui vont être touchés et impactés par ces développements-là.
Pourtant, selon sa collègue Brigitte Orteboust, qui travaille à l'atelier de conditionnement, la monnaie virtuelle a aussi ses défauts.
Je ne pense pas que ce soit forcément une bonne chose de dématérialiser complètement la monnaie. Les personnes n'auront plus vraiment quelque chose qui leur appartient, parce qu'en fait la monnaie correspond à quelque chose qui leur est donné par rapport à un travail. Et c'est bien de quantifier tout ça par quelque chose de physique.
Et si jamais les commandes d'euros venaient à trop diminuer, l'usine pourrait fabriquer davantage de monnaies étrangères. Aujourd'hui, cette production représente 40% de l'activité du site, un chiffre en augmentation depuis quelques années.
Un reportage à Pessac signé Elie Bergel, Véronique Riche-Flores. Ce reportage recoupe beaucoup des questions qu'on vient d'évoquer. Battre monnaie, c'était jadis le privilège des États. C'est l'est de moins en moins.
par rapport à cette expression, effectivement, ce pouvoir des États, parce que battre, dans le fait de battre monnaie, il y avait aussi le fait de d'avoir un certain pouvoir économique à travers précisément la maîtrise de la monnaie. Et donc, on retrouve des points qu'on a évoqués, effectivement. Les États sont perdent de l'influence, sont de moins en moins présent et de plus en plus écarté par les forces sous-jacentes du mode de fonctionnement de nos économies
et de nos finances mondiales.
Et de nos finances, incontestablement.
Alors, Christophe Nijudam, comment expliquer, par exemple, c'est paradoxal, d'un côté on nous dit les États pèsent de moins en moins, finalement, dans la finance mondiale, dans l'économie mondiale, et par ailleurs, ils sont de plus en plus endettés, et par exemple, Jean-Claude Trichet, l'ancien gouverneur de la Banque Centrale Européenne, que vous citiez au début de l'émission, évoquait, lui, il y a quelques jours, la menace que faisait peser sur la finance mondiale, l'endettement global des États, des entreprises. Comment expliquer ce contraste ?
Mais, la différence entre les fonds propres et l'endettement, c'est les fonds propres, quand vous avez vos fonds propres et par exemple vous investissez en bourse, c'est votre argent. Si vous le perdez, vous n'avez plus que vos yeux pour pleurer, mais ça s'arrête là. L'endettement, c'est un engagement contractuel, c'est l'argent des autres, l'argent de quelqu'un d'autre qui vous est prêté et que vous devez rembourser. C'est pour ça que compare la bulle Internet et la crise boursière du dégonflement de la bulle Internet en 2000 par rapport à la bulle des marchés liée à l'endettement avec la crise de 2007. Je prends toujours cette petite image pour que l'on comprenne bien la différence. En 2000, avec la bulle Internet, les gens sont allés jouer au casino avec leur argent. Ils ont perdu, ils sont sortis en pleurant, mais c'était arrêté là. En 2007, les gens sont allés jouer au casino avec l'argent des autres. Ils l'ont perdu. Quand ils sont sortis du casino, il y avait un mec baraqué avec une batte de baseball qui lui disait « Il est où mon argent ?» Et derrière ce premier individu patibulaire, il y en avait un autre, un peu plus grand, et avec une batte de baseball un peu plus grande. C'est en cela que toute crise financière liée à trop de dettes est beaucoup plus compliqué, il est beaucoup plus compliqué d'en sortir parce qu'il y a cet enchevêtrement et qui fait que les crises économiques à la suite d'une crise financière de surendettement sont beaucoup plus longues. Là, ça fait quand même 10 ans. Qu'on est dans cette crise. Et je me souviens du numéro 2.
Dans quelle crise? Vous pensez qu'on n'est toujours pas sorti de la crise de 2008?
Je pense que nous n'en sommes toujours pas sortis. On n'a pas récupéré la croissance que nous avions précédemment. Paul Tucker, qui était le numéro 2 de la Banque Centrale d'Angleterre, qui était venu à une conférence que nous avions organisée à Bruxelles il y a un an et demi, disait très clairement, nous n'en sommes qu'aux tiers. En d'autres termes, lui considère que cette crise, pour récupérer la croissance pré-crise, la croissance potentielle, devrait pendre aux alentours de 20 à 25 ans.
Werner Krischlores, encore 15 ans de crise? On est toujours dans la crise de 2008?
15, 20, 30 ans, qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu cette capacité de s'endetter. Rappelez-vous, pendant toutes les années, finalement, 80 à la crise de 2008, nos économies, nos agents économiques, nos entreprises, nos consommateurs se sont endettés, nos États également. Cet endettement, c'est quoi? C'est économiquement, c'est juste le fait de consommer ou de devancer des besoins. Les banques vous prêtent de l'argent et puis ça vous permet de consommer au-dessus de vos moyens. Mais qu'une fois que vous avez emprunté et que vous êtes endetté à un point qui vous empêche de vous endetter de manière supplémentaire, vous n'avez plus ce recours. Alors quand il s'agit d'une famille ou d'une région ou d'un pays, ça n'a pas trop d'influence sur la mécanique d'ensemble. Quand le monde a vécu grâce à l'accumulation des dettes et qu'aujourd'hui il est privé de cette capacité à continuer à devancer ou à consommer au-dessus de ses moyens, alors forcément la croissance est plus faible. Et qu'est-ce qu'il faut avant de retrouver cette capacité à se réendetter? Eh bien, il faudra retrouver des niveaux de dettes plus bas.
Donc, soit on aura des crises très violentes et on finira par rayer les dettes, une fois que les banques centrales en auront racheté, et en particulier les dettes publiques, la grande majorité. Soit on finira par avoir un épisode d'inflation qui viendra sans doute pas de nos économies et des rouages dans lesquels on est aujourd'hui, mais peut-être d'épisodes de conflits, de guerres et de flambées des matières premières. Soit on se cantonnera effectivement à une croissance durablement très faible, on n'arrivera pas à se désendetter et ceci sera la source de crises récurrentes et de difficultés politiques, etc., sociales, qui sont très difficiles à prévoir. Donc on est là, oui, bien sûr, on n'a pas épongé, on n'a pas retrouvé notre capacité à vivre hors effet de la crise de 2008. On est toujours dans ce carcan et qui prend, comme toujours, des années, des décennies avant de pouvoir regarder le Japon, avant de pouvoir être évacué. Le Japon se bat dans cette situation-là depuis la crise du début des années 90. C'est une économie en déflation. Ça veut dire, alors les Japonais s'en sortent pas trop mal, ils sont moins nombreux, mais ça veut dire que au niveau de la puissance économique du Japon, ce pays se rétrécit. C'est ce qui menace effectivement beaucoup d'économies dès lors qu'elles peuvent pas se dépêtrer de ces mots qui souvent prennent l'allure de déflation. C'est pour ça qu'on a eu ces politiques monétaires aussi agressive des banques centrales.
Christophe Nijdam, le monde est en train de rétrécir ?
Alors, sur le plan financier économique, non. Sur le plan financier, non. Sur le plan économique, oui, en ce sens que, encore une fois, à cause de cette crise, on a une croissance potentielle qui est de l'ordre de 25 points en dessous de la tendance que nous avions avant le début de la crise. Oui, très certainement.
C'est le mot de la fin. Christophe Nijdam, Véronique Riche-Flores, merci d'avoir accepté l'invitation de RFI. Vous pouvez nous réécouter en nous podcastant sur l'application Pure Radio ou en allant sur le site internet www.rfi.fr à l'onglet émission. Et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques qui se dérouleront, je vous l'annonce, à Dakar.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.